Bonjour. Dans son tout nouvel essai, Cynthia Fleury s'intéresse de très près au ressentiment. Elle le fait, comme pour ses livres précédents, avec son double regard de philosophe et de psychanalyste. Le ressentiment, un sentiment aigre et destructeur lié à l'être humain, et qui est un des fléaux de notre époque, semble-t-il. Qu'est-ce que le ressentiment ? Dans son livre, l'auteur cite le philosophe et sociologue allemand Max Scheler, qui dans son ouvrage « L'homme du ressentiment » publié en 1912, avance cette définition. C'est l'expérience et la rumination d'une certaine réaction affective dirigée contre un autre, qui donne à ce sentiment de gagner en profondeur et de pénétrer peu à peu au cœur même de la personne, tout en abandonnant le terrain de l'expression et de l'activité. Cynthia Fleury écrit d'emblée « Je défends pour ma part, comme Cornelius Castoriadis, philosophe et psychanalyste de son état, l'idée d'une différence radicale entre les hommes dans leur aptitude ou non à se tenir à distance de leurs propres ressentiments. » Nous allons en savoir plus dans un instant, dans ce nouveau numéro d'Idées, un magazine que vous pouvez télécharger sur le site de la radio ou sur votre moteur de recherche préféré, afin de l'écouter quand vous le souhaitez. Bonjour Cynthia Fleury.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous recevoir dans cette émission, de vous voir à ce micro. Vous êtes philosophe et psychanalyste, donc professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers, professeur associé à l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris, et vous dirigez la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne. On aura sans doute l'occasion d'en reparler car vous avez des projets fort intéressants. Vous êtes l'auteur de nombreux livres. Je prends les plus récent, Le soin est un humanisme, un petit texte publié il y a quelques mois dans la collection Tract chez Gallimard. Nous avions parlé ensemble dans cette émission de la fin du courage, la reconquête d'une vertu démocratique. Vous avez aussi analysé ce que vous appelez les pathologies de la démocratie. Et il y en a bien d'autres, mais la liste est tellement longue que je ne peux pas la donner. En tout cas, je précise que vos deux premier livre, Métaphysique de l'imagination et Mallarmé, viennent d'être publiés en poche chez Folio. Ça veut dire que vos textes sont passionnants et ô combien importants. On va donc parler du dernier livre en date, Sigil amer, guérir du ressentiment, publié chez Gallimard. Quel sentiment d'époque, je dirais, que ce ressentiment ?
Ah oui, je crois qu'on a une nouvelle ère ressentimiste devant nous, avec deux choses. Un, et c'est toujours ça qui est très compliqué dans la question du ressentiment, c'est qu'il y a des conditions objectives du ressentiment, très clairement. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période où les conditions objectives sont là. Le déclassement, la précarisation, une mondialisation dérégulée qui donne le sentiment aux uns d'être des perdants, aux autres d'être des gagnants, que sais-je, etc. Un panoptique généralisé où chacun voit ce que fait l'autre et est en rivalité mimétique maximale. Des réseaux sociaux où l'anonymat peut vomir tous les jours sa haine sans en payer le prix.
Bref, bien, oui.
tout est là pour que précisément les conditions objectif du ressentiment. Mais par ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans le livre, c'est qu'il y a c'est l'archaïque humain de base, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle la pulsion ressentimiste, celle que nous avons à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et je dirais que le livre essaye de montrer qu'en fait, il faut produire une double obligation. Un double impératif moral, si je volais la formule kantienne. Premier impératif moral et premier impératif politique, c'est celui du côté de l'institution démocratique qui doit tout faire pour ne pas produire les conditions objectives du ressentiment. Et donc, c'est la question de l'état social, c'est tout ce que nous connaissons par cœur, l'état de droit, mais concret, etc. Et puis, de l'autre côté, c'est tout ce que doit faire l'individu pour résister à sa propre pulsion ressentimiste. Et donc, c'est ce devoir des deux côtés. On pourrait considérer que voilà, il y a un double contrat des devoirs, du devoir institutionnel et du devoir de l'individu pour résister à un mal profond et qui, pour moi, est peut-être le mal le plus dangereux et pour le sujet et pour la démocratie, parce que c'est sans doute le mal qui détruit la démocratie.
Ces deux ressentiments, Cynthia Fleury, étant liés, c'est-à-dire que la société influence sur l'individu et réciproquement, évidemment.
Bien évidemment, ils sont en dialectique permanente. Et quand on trouve la juste combinaison, on arrive, c'est ça qui est au moins la bonne nouvelle, à se protéger des deux. Mais l'inverse est vrai également, quand on ne trouve pas la combinaison, on renforce les deux de manière extraordinairement forte, destructive, et alors pour le coup avec des conséquences collectives, des conséquences individuelles bien sûr, mais des conséquences collectives et historiques fortes.
Oui. Alors ce ressentiment, il est difficile parfois de lui donner une définition précise. C'est pour ça que je citais d'emblée dans mon introduction cette définition de Max Scheler, un intellectuel, un sociologue allemand qui sent un peu le soufre, hein, parce que vous dites qu'il était très conservateur pour le moins.
Pour le moins.
Mais qui donne au moins du ressentiment une définition assez précise, à la fois sur le sentiment en tant que tel et sur les dégâts qu'il fait en s'instillant profondément dans l'individu.
Oui, il a une formule de... Il parle d'auto-empoisonnement. Et puis surtout, il a très bien vu la dynamique perverse du ressentiment, qui est que ça gagne en profondeur, donc ça gagne en intensité, et que ça vide, en fait, la puissance active du sujet
ça,
en même temps.
Ça, c'est très important.
C'est-à-dire la passivité. Exactement.
Ouais.
Ça, c'est la clé pour comprendre comment on fait une inversion totale de ce qu'est une théorie de l'action quand on est dans le ressentiment. Et c'est ça qui est compliqué, puisque ceux qui vont pénétrer dans le ressentiment, au contraire, vont avoir le sentiment d'être agissant. Précisément pas. Ils deviennent profondément passifs, parfois passéistes, mais pour d'autres raisons, et ils rentrent dans un délire, parce que c'est véritablement ça, ils façonnent un monde, un délire victimaire, un délire de persécution, de protestation, et ils vont investir ce délire au lieu d'investir le monde.
Et pour vous, c'est une ligne de fracture. Hein. Je citais aussi oui. ce que vous écrivez là cette fois, à propos de vous citez Castoriadis, vous divisez en fait les individus en deux parties, ceux qui arrivent à se relever, à dominer ce ressentiment et les autres.
Oui, je crois qu'il y a une vraie ligne de fracture qui n'est pas dite. Parce que souvent on met cette ligne de fracture ailleurs, et je crois en fait qu'elle se situe au cœur même de la psyché des hommes, dans pour les uns la capacité de sublimer, de symboliser, c'est-à-dire non pas d'être ignorant du ressentiment, ils le connaissent, c'est là.
Parce que c'est inévitable.
C'est inévitable, c'est-à-dire que cette pulsion, si vous voulez, d'abord pourquoi ? Parce que le ressentiment arrive fondamentalement du fait que nous soyons des êtres finis, de la finitude, que nous sommes dans un besoin d'inséparation, donc que la question de la séparation est quelque chose de difficile, que nous avons un complexe plus ou moins fort abandonnique, enfin il y a toute une histoire qui nous précède, qui fait que, oui, la pulsion ressentimiste est là, la pulsion de mort est là, et la pulsion de vie sont là. Après, si vous voulez, c'est la fixation dans cette pulsion, c'est l'enlisement dans cette pulsion qui fait la véritable différence. Et pour éviter cet enlisement, c'est la question de la sublimation, de la symbolisation, et éventuellement de la découverte d'un goût qui s'appelle l'amer, et de faire en sorte que ce goût de l'amer, qui est par ailleurs un de mes goûts préférés, n'est pas, je parle au niveau de la saveur, hein, ne devienne pas une amertume et une mélancolie sévère, mettant en danger le sujet lui-même.
D'emblée, Cynthia Fleury, vous jouez avec les mots d'ailleurs et les concepts, hein, parce que entre la mer, l'amertume, la mer, l'océan, et la mer qui est le parent, votre livre finalement s'articule autour de ces trois.
Il y a trois parties qui constituent en fait cette dialectique, parce que je pense qu'elle est au cœur de chaque sujet. La mer représentant ici ce que souvent on appelle le père, ou le nom du père, mais là c'est le nom de la mère, dans le besoin absolu de ne pas être séparé, d'être protégé, de ce désir infantile de faire fusion, etc. Bon, qu'on peut très bien comprendre et que nous avons au loin, malgré tout. Donc la question, je pense, du juste rapport aux parents, c'est à un moment donné fondamentalement la séparation. Et puis, parce que ça nous permet aussi de devenir nous-mêmes parents, parents, la mer parce que c'est l'océan, parce que c'est, on l'a dans Métaphysique de l'imagination, c'est la grande fonction de l'ouvert chez Rilke, donc c'est voilà, tout d'un coup la sublimation, l'océan, mais pas le besoin océanique du départ, c'est l'océan que nous, nous allons construire par notre capacité imaginative, par notre investissement libidinal dans le monde, etc. C'est l'ouvert. Il y a des pages qui ouvrent sur sur Melville, sur les hommes océans de Hugo, sur cette envie de prendre le large. Voilà. Hein, bon, ça c'est la mer. Et puis bien évidemment la mer, c'est tout ce que j'avais pu traiter dans Precium Doloris et dans d'autres ouvrages, c'est-à-dire la question de la douleur, la question de ce qui fait mal. Et si vous voulez, moi, c'est parti aussi d'une écoute des patients, avec, je trouvais très très juste véritablement des patients qui viennent faire cet effort qui est compliqué, qui est dur, de venir déposer une douleur, d'avoir, et pas qu'une douleur, une souffrance, mais de déposer son ressentiment. Et si vous voulez, la difficulté de s'en extraire. Pour quantité de raisons, parce que très souvent, je vous le dis encore une fois, il y a des conditions objectives du ressentiment. Et tout l'enjeu, ça va être de faire la différence entre des vérités objectives et puis des vérités subjectives, dont le sujet a besoin pour précisément se libérer, pour affirmer sa liberté. Et cette vérité psychique, elle n'est pas au même endroit que la vérité juridique, par exemple, ou que la vérité politique, puisque j'ai pu discuter avec quantité, mais on dit, mais alors la colère, donc il faut renoncer à tout. Certainement pas. Mais il faut dédier, si vous voulez, la colère à un moment donné à autre chose que la colère. Il faut dédier l'envie à autre chose qu'à l'envie, etc., etc. Et donc, au contraire, il faut politiser au sens de rendre politique ces sentiments et non pas de basculer dans quelque chose qui est de l'ordre de la psychorigidité.
Vous avez, Cynthia Fleury, ce double regard que je soulignais dès le début, il faut le rappeler, c'est assez rare, ce double regard à la fois de philosophe et de psychanalyste.
Oui, c'est là aussi, c'est au fil.
C'est-à-dire, il y a une pratique.
Il y a une pratique, il y a une clinique quotidienne. Donc, de fait, je reçois des patients, et c'est vrai que très très vite, et encore une fois avec quantité de collègues, on a pu voir cela, l'entendre déjà. Le mal qui vient s'énoncer, le dire qui vient s'énoncer sur le divan est un dire presque civilisationnel, si vous voulez. C'est un discours sur le monde qui va mal avant même le sujet qui va mal. En tout cas, c'est extraordinairement imbriqué. Ça a toujours été le cas, bien sûr. Mais plus ou moins. Plus ou moins, pourquoi ? Parce que notre conception de l'individu n'est pas au même endroit qu'il y a des siècles. Et qu'aujourd'hui, la manière dont nous saisissons le monde, c'est le viatique individuel. Donc bien évidemment que la question analytique, elle va prendre davantage de place dans la question politique.
Oui, nous avons parlé il y a quelques semaines avec Marcel Gauchet de la montée de l'individu, ce qu'il appelle, lui, la montée de l'individu. Ça, effectivement, entraîne obligatoirement une montée du ressentiment.
Nécessairement, si vous voulez, en tout cas, ça fait monter de nouveaux invariants psychique qui structure cette psyché individuelle alors qu'elle était relayée, je dirais, derrière, il y a encore plusieurs siècles.
Parce que l'individu a des exigences aujourd'hui qu'il n'avait pas auparavant.
Exactement, parce qu'il a un phénomène d'autorisation qui fait qu'il est au cœur du monde, si ce n'est le monde. C'est bien évidemment pas le cas d'une conception antique. En Grèce antique, la conception de l'individu, ça n'existe pas. Vous n'avez pas d'individuation. Au contraire, si on devait avoir ce qu'on appelle le souci de soi antique, c'est précisément pas le souci de soi comme nous le pensons aujourd'hui. C'est même une dépersonnalisation d'une certaine manière. C'est un soi cosmique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'efface d'une certaine façon, ou alors on disparaît derrière un rôle public, ce qui est très très important. Et puis on a bien vu que avec l'histoire est arrivée une chose qu'on appelle l'individu, le séparer véritablement, lui-même étant indivisible, mais chacun nous sommes des irréductibles, et nous produisons de l'histoire. Mais je suis un grand défenseur de l'individu, hein. Et nous produisons de l'histoire, de l'événement civilisationnel notamment, par ce biais-là. Donc, la question de la psychanalyse, si vous voulez, certes, c'est le champ de l'intime, mais c'est très très vite un champ qui, de fait, d'emblée, est et sera demain d'autant plus politique. Donc la psychanalyse et la philosophie politique qui me constituent, sincèrement, voilà, ce qui se dit dans la parole subjective d'un sujet, alors je sais, il y a des biais, moi je ne suis pas un sociologue, et je ne fais pas des modélisations avec des statistiques, etc., j'écoute des sujets. Donc je sais bien que, par ailleurs, ce sont ces sujets. Mais on connaît tous la dialectique hegélienne qui fait que cette singularité, elle dit quelque chose de l'universel, et elle le dit d'autant plus dans nos sociétés qui sont quand même très mimétiques.
Alors, vous notez, entre autres, Cynthia Fleury, dans votre livre, cette faculté du ressentiment, cette faculté d'autoconservation. C'est-à-dire qu'il est très difficile, parfois, de s'en extraire.
Oui, c'est une des choses les plus compliquées parce que ça fonctionne comme un très bon formol, si vous voulez. C'est ça. On se met dedans et puis ça conserve. Il faut reconnaître, c'est toute la force de la psychose. La psychose, c'est une machine. Si vous voulez, par rapport à la névrose, etc. La névrose, pas mal aussi. Les névroses sévères conservent assez bien parce qu'il faut, si vous voulez, faut être simple dans la vie. Pour tisser névrotiquement tous les jours, faut quand même être un tout petit peu en forme. Donc, c'est à un moment donné.
Ça demande de l'énergie.
Ça demande de l'énergie. Ça demande de l'investissement. C'est pareil pour la psychose. L'air de rien, ça prend tellement de place que la base, le socle, malgré tout, pour être dans une grande psychose, c'est quand même la vie. Donc, résultat, vous avez un principe d'autoconservation, mais qui est totalement vicié et qui produit une toxicité, alors bien sûr pour vous-même, mais je dirais après tout...
Qui est assez contagieuse finalement.
Mais en fait c'est ça le problème, ça irradie littéralement. Et surtout le ressentiment est un mal qui d'abord, et c'est ce que raconte très bien Scheller aussi, c'est que petit à petit, alors parfois ça commence effectivement à partir d'une cause, et puis en fait le mal devient si profond qu'il y a un phénomène d'indétermination et de contagion même de l'aigreur. C'est-à-dire que tout d'un coup tout est pris dans un grand tout où il n'y a plus tellement de besoin de cause et de pas de cause. Et c'est pour ça qu'on comprend mieux d'ailleurs comment se transmet le ressentiment de génération en génération, et on n'a plus besoin de savoir d'où c'est parti, si même il y avait une cause, etc. C'est plus l'enjeu. Ce qui est l'enjeu, c'est cette pulsion indéterminée, immense, dans laquelle on peut presque se vautrer, parce que c'est quand même un peu ça, comme un cocon, mais un cocon toxique.
Toxique, absolument. Vous avez des pages fortes, éclairantes, fort éclairantes sur le ressentiment dans les démocraties.
Oui.
C'est-à-dire que vous citez Tocqueville, évidemment. C'est-à-dire que ce désir, cette volonté d'égalité, cette revendication d'égalité provoque évidemment un ressentiment parfois.
Oui, c'est-à-dire que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le ressentiment serait davantage le mal de la démocratie que le mal de la dictature. Ça n'a pas de sens comme ça d'emblée. C'est un peu peut-être éventuellement contre-intuitif. Et en fait, pas du tout. C'est précisément le mal démocratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la fois ce qui naît plus facilement en démocratie et en même temps, c'est un mal plus dangereux pour la démocratie, parce que en gros c'est peut-être le seul qui peut avoir sa peau. La démocratie peut traverser toutes les crises, mais fondamentalement celle de son propre ressentiment comme une maladie auto-immune. Là ça devient extraordinairement compliqué. Pourquoi? Bah parce que tout simplement c'est la promesse d'égalité, c'est-à-dire que en démocratie, et c'est merveilleux, vous avez cette promesse extraordinaire d'égalité qui à un moment donné fait que chacun est dans une attente immense, et cette attente immense, elle ne peut pas être comblée.
C'est ce qu'écrit Tocqueville, hein, il écrit ceci dans La démocratie en Amérique, vous le citez, hein, c'est pour cela que le désir de l'égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande, et il note un peu plus loin, Tocqueville, souvent cité, très souvent cité, qui demeure une référence, Tocqueville dit « La mélancolie singulière que les habitants des contrées démocratiques font souvent voir au sein de leur abondance, et ces dégoûts de la vie qui viennent quelquefois les saisir au milieu d'une existence aisée et tranquille. » On a l'impression que c'est écrit aujourd'hui.
Franchement, oui. 1835, ouais. Je crois. Voilà, de fait, c'est pile comme ça. On pourrait poser magistralement le vêtement sur la société contemporaine. Je l'avais déjà posé dans Les pathologies de la démocratie, parce que c'est tellement flagrant. C'est une définition superbe. Hein. La mélancolie au sein de l'abondance.
Tellement clair et tellement vrai.
Oui, c'est quand même extraordinairement juste. Alors, après, voilà, on peut vous dire, mais alors, on ne pourra jamais s'en sortir, puisque de fait, comme dit également Tocqueville, l'histoire même de la démocratie, ce sont c'est la production historique des conditions d'égalité toujours plus grandes, etc., etc. Mais en même temps, non, parce que précisément, c'est là où il nous faut demain investir, mais de façon alors là aussi politique, éducationnelle, parce que pour moi, la politique, c'est d'abord les politiques d'éducation. Il nous faut investir une maturité émotionnelle, une maturité psychique. Sujet totalement inexistant dans les politiques publiques, si vous voulez. Et puis même, chacun se disant, surtout pas, enfin je veux dire, c'est pas au magistère public de s'occuper de la maturité psychique des êtres. Et non, mais en fait, un tout petit peu quand même. Un tout petit peu quand même, parce que c'est là que nous pouvons faire des progrès, bien évidemment toujours faire des progrès dans l'état social et la production de conditions objectives de l'égalité, ça c'est certain, mais aussi, je le dis parce que l'ultime rempart, c'est le fait de résister à sa propre pulsion ressentimiste. Et donc si c'est ça l'ultime rempart, il nous faut aussi apprendre à grandir psychiquement. Et pour le coup, c'est un sujet qui est, on a une ingénierie extraordinaire pour envoyer des hommes éventuellement sur Mars, mais pour envoyer des hommes dans leur propre psyché, c'est encore un peu court.
Alors vous citez, ça aussi un passage éclairant de votre livre, Cynthia Fleury, vous citez Nietzsche. Nietzsche qui pense que celui qui tombe dans le ressentiment est en quelque sorte un esclave.
Tout à fait. Et ça, c'est une des grandes théories nietzschéennes, c'est de considérer même que c'est la vengeance des faibles, ce qu'il appelle les faibles. Et donc, c'est très compliqué de venir définir... Enfin, c'est pas très compliqué. Chez Nietzsche, c'est très simple. Qu'est-ce que le faible? C'est bien évidemment la faiblesse d'âme. Hein. C'est quelque chose de très hegelien, malgré tout. C'est-à-dire celui qui renonce à sa liberté. Et parce qu'il renonce à sa liberté, il va transformer cette stigmatisation en détestation de l'autre. Et puis, il fait valoir en lui une pulsion victimaire, et bien évidemment, de cette pulsion victimaire, il va faire le bourreau qu'il sera pour autrui. Donc, chez Nietzsche, il appelle la morale des esclaves, et en plus, c'était intéressant, parce que bien évidemment, Scheller est un grand catholique fervent, et Nietzsche, de fait, ne l'est pas, et les deux voient dans le même objet, l'un, l'antidote presque au ressentiment, parce que c'est une morale qui est tout sauf celle des esclaves, pour Scheller, le catholicisme, et puis bien évidemment l'inverse, chez Nietzsche, qui voit presque le ferment d'une démocratie en puissance, etc., etc. Donc, voilà, moi j'ai voulu reprendre des auteurs qui d'abord traitaient de ce sujet, je me suis dit un siècle après pour Scheller, parce que le texte est avant la Première Guerre mondiale, je me suis dit que plus d'un siècle après, c'était intéressant de voir où est-ce que nous en étions. Et c'est terrible d'ailleurs de voir à quel point, c'est toujours la même question, il y a une amnésie forte, historique, ce réel de la mort qui a constitué les deux guerres et puis les catastrophes qui ont ponctué le XXe siècle, à un moment donné, ont été traversées, il y a eu des grands moments ressentimistes, mais... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu comme cette espèce de comme dans une balance, quelque chose qui fait contrepoids. Aujourd'hui, on a un sentiment que il y a un oubli de cela et que résultat, la pulsion ressentimiste va aussi 70 ans après reprendre du panache.
Nietzsche et sa fameuse phrase que vous analysez dans ce livre, comme vous l'avez fait dans les livres précédents, en quelque sorte, Cynthia Fleury, on a toujours à défendre les forts contre les faibles. Alors ça, cette phrase est absolument formidable.
Elle est formidable.
Parce qu'elle a été commentée depuis son écriture. Et interprétée de manière diverse.
Ah ben, et interprétée, et de fait, c'est une phrase à contextualiser, puisque lorsqu'il parle des forts, il ne parle absolument pas des puissants à un instant T, les dirigeants, etc. Il parle de ceux qui tentent, si on voulait voler là aussi l'expression à Wilhelm Reich, qui tente une aptitude à la liberté, puisque c'est la définition chez Wilhelm Reich du sujet, c'est-à-dire, voilà, simplement ça, dit même pas les hommes libres, mais ceux qui à un moment donné tentent cela, parce que fondamentalement nous sommes tous sans illusion sur la vérité de notre liberté ou de notre libre arbitre, mais en revanche c'est une idée régulatrice, donc défendre cette idée régulatrice, défendre qu'il n'y a pas d'essentialisation du victimaire, c'est ça qui fait la différence entre le fort qui refuse à jamais d'être essentialisé comme victime, en tout cas psychiquement. Il n'est pas victime, objectivement peut-être, Très certainement. À ce moment-là, on se bagarre et on fait du combat politique. Mais psychiquement, il est absolument immaculé, si vous voulez. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. C'est quand on est, en tout cas, un thérapeute, un psychanalyste, et qu'on accompagne des gens qui ont traversé un trauma, qui sont des vraies victimes, et qui seront peut-être pour certains d'entre elles et d'entre eux des victimes à vie. Parce que il y a des traumas dont on ne se relève pas comme ça. C'est comme ça, c'est en vous, c'est incorporé. Bah, précisément, on doit avec eux véritablement les remettre sur ce chemin, mais du fait qu'ils sont absolument non victimes. Ils sont forts, ils sont prêts à être autre chose. Et par ailleurs, on reconnaît juridiquement et on se bagarre politiquement pour éventuellement même un statut de victime.
Dans ce livre, vous analysez donc ce ressentiment en profondeur, individuel et collectif. Vous donnez aussi quelques pistes pour essayer d'en sortir en quelque sorte. On va en parler dans un instant, toujours en tant que philosophe et psychanalyste. Mais je voudrais que l'on dise un mot de ce que l'on appelle le faux self, celui qui fait semblant en fait.
Le false self, c'est une des concepts qui a été théorisé par Donald Winnicott dans les années notamment 50. Et le false self, chacun va très vite comprendre ce que c'est. C'est effectivement ce moi d'apparence que nous prenons lorsque nous sommes dans une situation de danger d'abord. Donc le false self n'est pas nécessairement dans un premier temps quelque chose de problématique. C'est même un outil parmi d'autres, un masque dont nous avons tous besoin quand tout d'un coup, il vaut mieux être un peu en dissimulation. Mais le false self, c'est pas ça. C'est tout d'un coup, on bascule petit à petit dans le fait là aussi de s'enliser dans ce false self, de ne plus avoir accès à son moi, donc de se cliver littéralement. Et là, pour le coup, ce faux self, il met aussi en danger puisque il ne permet plus, il fait entrer le sujet dans un déni. Et donc, quand vous êtes dans le déni, vous n'êtes plus capable d'être dans votre rapport authentique à vous-même. Donc, tout est biaisé, tout est instrumentalisé. Et nous sommes dans des mondes, souvent, hélas, de faux self. Mais dans un premier temps, nous sommes aussi dans des mondes de faux self parce qu'on ne permet qu'au faux self de rester dans ces mondes-là. Parce que c'est des mondes, quand même, c'est vrai, je l'avais écrit dans La fin du courage, mais où sans cesse, on nous la novlangue nécessairement induit du faux self, puisque on vous dit quelque chose et on fait exactement le contraire. Donc à un moment donné, soit vous pétez les plombs, soit vous cassez cette novlangue, soit vous-même vous rentrez dans un système de mensonges.
C'est-à-dire que l'individu devient double, en quelque sorte.
L'individu devient double et donc utilise en entrisme d'abord, mais ensuite lui-même perd l'accès à son authentique. Puisque s'il a accès à son authentique, il deviendra malade.
Alors, d'évidence, vous l'écrivez, Cynthia Fleury, je vous cite, « Le ressentiment empêche l'ouverture, il ferme, il forclos, pas de sortie possible. Le sujet peut être hors de soi, mais en soi, rongeant le soi, et dès lors rongeant la seule médiation possible vers le monde. » Pour sortir de ce... Il ne s'agit pas de donner des conseils pratiques, c'est infiniment plus compliqué que cela, Cynthia Fleury, mais pour sortir de ce ressentiment qui nous empêche l'ouverture, il faut quand même essayer, là vous citez Melville, de prendre le large.
Oui, alors, c'est très, très, très compliqué. C'est pour ça que dans le livre, j'essaye de dire à quel point il faut diriger nos actions sur l'amont, c'est-à-dire sur la prévention du ressentiment. Et donc, bien sûr, les questions objectives, des conditions objectives et tout l'aspect politique, les politiques publiques, mais l'éducation. Parce que d'emblée, dès le début, il faut travailler à aider nos enfants, nous-mêmes, à résister à... D'abord, ce qui se nomme gentiment la frustration, voilà, parce que ça part par là. Et puis, après, la pulsion ressentie.
C'est-à-dire apprendre à l'enfant qu'il rencontrera toute sa vie des frustrations et qu'il faut surmonter ces frustrations.
Et que sans cesse, il va rencontrer cela. Et que les rencontrer ne signifie pas qu'il est faible, qu'il n'est pas chanceux, ou qu'il est malheureux, ou qu'il est victime d'une injustice, etc., etc. Donc, et pour le coup, nous pensons que cette éducation psychique, émotionnelle, elle se fait de façon spontanée. Mais pas du tout. C'est comme les mathématiques. Ça s'apprend. Ça s'apprend et c'est extraordinairement, on le voit chez les petits-enfants. Et les petits-enfants, c'est merveilleux parce que ils arrivent et ils vous disent, mais c'est plus fort que moi. Et là, c'est merveilleux parce qu'on peut tout faire à ce moment-là. Quand un enfant vous dit, mais c'est plus fort que moi, on l'attrape et on dit, non. Non, ce n'est pas plus fort que toi. Et moi qui suis plus grand, je vais te montrer comment c'est pas plus fort que toi. Et tu vas voir. Et tu vas trouver le chemin ensuite tout seul. Bon, c'est des choses... Bon, alors, bien évidemment, ça c'est le côté simple et sympathique de l'histoire. Une fois qu'on a basculé dans le ressentiment, c'est très compliqué. Parce que soit on est dans le déni, et là on bascule dans la question collective en fait. Parce que ce déni du ressentiment, il trouve nécessairement une traduction politique. Et donc, c'est le délire conspirationniste, le complotisme, le néopopulisme. Je sais pas, on a je ne sais combien d'avatars aujourd'hui des enfants du ressentiment collectif. Et si éventuellement, on a quelqu'un qui, malgré tout, est conscient d'être dans le ressentiment, mais n'arrive pas à en sortir, bah, c'est très compliqué. Mais là, pour le coup... Il y a des voies de travail analytique, de trouver, je dirais, l'équation de sublimation singulière, parce que chacun, en fait, nous ne sublimons pas au même endroit, de la même façon. Et ça, ça demande souvent un travail avec un tiers résilient, mais ça peut se faire tout seul.
Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut essayer de trouver une ouverture, non ?
Tout à fait. Et c'est à ce moment-là où il faut comprendre comment, à l'intérieur de sa propre vie, si on prend l'expression de Melville, on prend le large. Donc comment ? Comment on prend le large alors que précisément les individus vous expliquent à quel point ils sont emprisonnés dans leur vie parce que c'est comme ça, parce que nous avons notre modernité produit des rêves immenses mais des réalités plus petites. Hein. C'était aussi tout ce que pouvait raconter autrement parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'il dit les choses, mais Bourdieu lorsqu'il fait les misères de position et de situation. Et bien évidemment, nous avons une espérance et encore une fois, il est hors de question de dire renoncer à votre espérance. Pas du tout. Mais en revanche, sublimer les manques que vous allez rencontrer de toute façon sur votre chemin pour précisément faire valoir cette espérance.
Il y a une autre chose que vous notez dans ce livre très riche, donc Cynthia Fleury, c'est la puissance de la faculté d'admiration.
Ah oui.
La puissance de dans le fait de reconnaître que les qualités des autres, et là vous êtes à rebours de l'époque, parce que aujourd'hui admirer et reconnaître à quelqu'un des qualités, c'est pas tout à fait à l'ordre du jour.
Non, c'est vrai, c'est un peu désuet.
Mais j'apprécie.
C'est un peu désuet. Moi, je pense que l'admiration sauve. L'admiration, il y a des passages, et d'ailleurs, je fais référence assez grandiose où, chez Descartes, dans le traité, justement, enfin, les passions, ouais. Les passions de l'âme, il met en dialectique la générosité, l'admiration, etc. Alors, bien évidemment, l'admiration au sens raisonnable du terme. Hein. Je ne parle pas du fanatisme, je ne parle pas de l'intempérance délirante, l'érotomanie. Nous ne parlons pas de tout cela.
Restons raisonnables.
Voilà, nous parlons de tout simplement la possibilité de reconnaître à autrui un talent. La possibilité de reconnaître à autrui une valeur. C'est l'antidote spécifique du ressentiment, puisque le ressentiment, c'est l'incapacité, à un moment donné, de reconnaître à autrui une valeur. Donc, comment je me nourris, au lieu de dépérir, du fait de reconnaître à autrui, mon Dieu, cette intelligence, ce style, cette beauté, que sais-je. Et surtout, au même moment où je reconnais ça, je ne rentre pas dans ce délire comparatiste de me situer immédiatement en disant « alors je suis plus beau, je suis moins laid, je suis plus intelligent, je suis moins belle ». Non, et ni rentrer dans ce délire qui compte « qu'est-ce qu'il est plus intelligent que moi et qu'est-ce que c'est merveilleux ». Non, c'est pas... non, mais si vous voulez...
Savoir se situer en quelque sorte et savoir reconnaître les qualités et les défauts des autres.
Exactement, il faut savoir tout simplement apprécier ses qualités. Et bien évidemment, ne pas perdre le discernement qui fait que chacun d'entre nous, nous avons des limites, des manques, etc. Mais c'est vrai que c'est extraordinairement précieux ce jour où on découvre vraiment émotionnellement que l'admiration nourrit et rassure d'une certaine manière. Rassure dans le sens de se dire, Voilà, malgré la difficulté de ce monde, malgré tout de même des vertus plus ou moins disparaissantes, mises à mal, etc., il n'empêche que il y a des êtres humains qui ont une certaine forme de puissance, et cette puissance, elle est régulatrice pour nous tous.
Mais c'est là que le poids du collectif agit en sens contraire, Cynthia Fleury, aujourd'hui. Parce que dans une société de compétition, dans une société de consommation, dans une société où souvent les identités prennent le dessus, il y aura toujours quelqu'un pour voir le côté négatif oui. d'un personnage historique, par exemple, sans essayer de comprendre que ce personnage, connu ou pas, est plus complexe, a fait beaucoup de choses, c'est pas la peine de s'arrêter sur un domaine en particulier pour
le haïr,
le destituer, au sens propre du mot d'ailleurs, je parle des statues par exemple.
Oui. Oui, ça c'est un des gros problèmes, c'est de pas comprendre comment une réflexion critique peut tout à fait
être compatible avec l'admiration,
compatible avec l'admiration et en même temps faire son travail d'historiographie, de savoir se positionner par rapport à tel ou tel point, mais en même temps, si vous voulez, un être humain, c'est pas non plus à la carte. Donc, on accueille toute une disparité de choses. Ça veut pas dire qu'on l'accepte. On se met en disputatio, on dialogue, mais à un moment donné, c'est vrai qu'on ne peut pas être simplement binaire par rapport à
binaire est le mot clé pour comprendre, pour essayer de comprendre l'époque.
Hein. Parce que c'est insuffisant. Et aujourd'hui, on a des doubles phénomènes, parce qu'on a à la fois cette vision de destitution critique, négative, etc. Mais on a aussi l'hystérie dans l'autre sens, c'est-à-dire des louanges qui n'ont pas lieu d'être, et qui tout d'un coup, des hystéries, des hypertrophies du moi, où on va venir souligner la vaillance de telle ou telle chose, sans que ce soit véritablement... Voilà. Donc de toute façon, il y a une chosification du talent de l'autre, soit pour le diminuer, soit pour en faire un pompon, enfin quelque chose qui n'a absolument pas de sens non plus.
Mais ça dit beaucoup de l'époque d'ailleurs, ces extrêmes sens ou dans l'autre.
En tout cas, ça dit quelque chose de la fébrilité psychique de l'époque. Et c'est toujours très intéressant de voir des hiatus si immenses entre des modernités grandiose, parce que nos modernités sont grandioses, malgré tout, scientifiquement, intellectuellement, enfin, je veux dire, c'est assez extraordinaire la somme d'intelligence qui est là, et en même temps, parfois, ce réductionnisme psychique, ce sabotage, cet auto-empoisonnement, alors que nous pourrions aussi, tout d'un coup, nous dire, mais tiens, là, il y a peut-être aussi un territoire d'apprentissage.
D'où l'importance, par exemple, du discernement, que vous traitez aussi dans ce livre. Discernement si cher aux jésuites, pour des raisons religieuses, évidemment, mais il est bon de faire son examen de conscience, par exemple, comme on disait jadis.
Oui, voilà, alors c'est, je suis désolée de reprendre cette grande notion, effectivement, qui est qui a été là de Saint Paul, en tout cas aux jésuites, ce qui nous permet méthodologiquement de faire advenir une âme d'une certaine façon, et puis le grand outil de discernement étant divin, si j'ose dire, en tout cas le rapport quel est notre rapport au divin. Donc nous désacralisons tout cela et nous trouvons au contraire un discernement dans la question de la raison, de la connaissance de soi, etc., mais surtout aussi dans la capacité de regarder avec la juste proportion ce qui nous entoure, parce que je dirais que là on a un très très grand moment de non-discernement avec le fait de mettre sur le même niveau quantité de choses qui n'ont strictement rien à voir. Et ça, c'est du réductionnisme de la pensée, bien évidemment, puisque il y a des choses qui sont du domaine d'un réel détail, même si les détails ont leur importance. Il y a des choses qui sont du domaine de la structure, il y a des choses qui sont du domaine de l'erreur, tout simplement, etc., etc. Et on a aujourd'hui une lame de fond comme ça, une fin du discernement. Pourquoi? Parce que le discernement demande un peu, c'est comme toujours, hein, de la complexité, du temps, de la progressivité dans l'argument, etc., etc. Tout ce qui est antinomique principalement des réseaux sociaux.
Certains auditeurs qui nous écoutent en ce moment même vont peut-être se dire que finalement, pour surmonter ce ressentiment, il faut être sacrément, pardonnez-moi l'expression, fort intellectuellement et psychologiquement.
Il faut être fort psychologiquement, de fait. Il faut être, en tout cas, il faut être dans l'idée, malgré tout, il ne faut pas être dans le déni. Si on est dans le déni, si je vous dis, c'est, oui. Et ça, c'est un problème qui est extraordinairement compliqué, c'est que la psychose, et notamment celle qui a des relents ou des ferments ressentimistes, c'est un des objets les plus complexes à attraper. Et c'est pour ça qu'il faut tout faire pour ne pas entrer dans cela. Mais quand on est en amont de cela, c'est-à-dire conscient malgré tout d'une part ressentimiste en soi, etc., là on peut travailler. Là on peut travailler et on peut se mettre sur un chemin de conatus, c'est-à-dire au sens spinoziste du terme, hein. C'est-à-dire d'un effort d'un autre type de conservation de soi-même. Donc pas la conservation ressentimiste, mais au contraire une conservation ouverte et qui va permettre tout simplement la dialectique avec le monde, avec les autres, avec soi, etc. Donc oui, il faut être malgré tout, il faut, c'est pour ça qu'il y a l'exergue du livre, il faut poser de façon régulatrice que le sujet peut. Et ça, je dois reconnaître que c'est un axiome, je ne peux pas valider le fait que je ne sais pas si le sujet peut.
Il n'y a aucune certitude.
Aucune. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je ne sais pas si le sujet peut ou le sujet ne peut pas. Je ne sais pas, puisque dans ma clinique de tous les jours, je peux dire et l'un et l'autre. Donc, si vous voulez, les deux sont vrais. Et dans celui qui ne peut pas, est-ce qu'il ne peut pas de façon intrinsèque, ontologique, etc., ou est-ce qu'il ne peut pas parce que il y a une complaisance à ne pas pouvoir? Je ne sais pas. Donc, je reconnais que le livre pose un axiome non négociable du « le sujet peut, l'individu peut, le patient peut ». Voilà. Pourquoi je pose cela ? Parce que je pense que si on ne pose pas cela, en revanche, on se prépare des grands moments de conversion dictatoriale grave. Et que donc, je défends la puissance régulatrice de l'aptitude à la liberté, parce que si demain, je dois défendre la puissance régulatrice de la non-aptitude à la liberté, en tant que philosophe politique en tout cas, et en tant que psychanalyste, ça voudra dire que je valide tout simplement les états autoritaristes et la soumission.
C'est pour ça que vous nommez un chapitre fascisme. Enfin, il y a une partie de votre livre qui s'appelle fascisme, c'est-à-dire cette liberté d'aller outre ce ressentiment permet de combattre, d'éviter, enfin on espère, ce fascisme. Le ressentiment est une colonisation de l'être, écrivait Fanon, vous le citez, je trouve que la formule est très belle. Il faut décoloniser en quelque sorte.
Tout à fait. Et surtout par Fanon. Oui. Parce que Fanon, c'est un psychiatre qui nous a quittés, hélas, beaucoup trop tôt, Frantz Fanon, magnifique psychiatre, et surtout au cœur, c'est pour ça que c'est intéressant Fanon, parce qu'il est au cœur de deux territoires, le soin, en tant que psychiatre, et le mouvement historique lui-même de décolonisation. Donc ce n'est pas quelqu'un qui s'exempte, si vous voulez, du combat politique. Il est au cœur du combat politique, Fanon. Et donc, c'est très intéressant parce qu'il défend et il combat tous ceux qui font la colonisation, et donc il est pour la décolonisation, mais ça ne suffit pas. Il défend aussi cette vérité psychique de dire « mais je ne suis pas victime, je refuse, nous sommes tous les noirs, les blancs, les ceci, les cela, les jaunes, tout ce que vous voulez, nous sommes des irréductibles, nous avons directement accès à l'homme ». Le fait que nous soyons ceci ou cela minoritaires, les damnés de la Terre, c'est nous. Nous sommes tous des damnés de la Terre et nous sommes tous irréductibles au sens où c'est une voie directe pour définir ce qu'est être un humain. Et ça, c'est grandiose parce que ça veut dire que je ne laisse pas à autrui la possibilité de m'essentialiser non plus comme tel ou tel.
Une chose qui est très importante aussi dans ce livre, on peut pas parler de tout de l'ensemble du livre, on l'évoque simplement, c'est l'importance du langage également dans cette affaire du ressentiment, parce que le ressentiment conduit évidemment à un langage souvent, vous le dites, hein, ordurier, grossier, haineux.
Tout à fait, tout à fait. C'est aussi ce qu'avait bien vu pour totalement d'autres raisons. Karl Popper, dans la leçon de ce siècle, il parlait de misologie. Mais en fait, le ressentiment produit de la misologie, de la haine du logos, parce qu'il se déverse et qu'à un moment donné, il n'arrive plus à symboliser. Et que le premier grand territoire, malgré tout, de la symbolisation, souvent, ça reste le langage. Je dis pas que c'est le seul, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, tous ceux qui ont des difficultés avec le langage ne pourraient pas symboliser. Donc c'est pour... Mais on voit très très bien que ceux qui ont des difficultés avec le langage, c'est difficile pour eux de symboliser et qu'il faut justement trouver des équations de symbolisation autres par le corps, la danse, l'art, l'artisanat, que sais-je. Il y a quantité d'autres manières. Donc le langage, c'est souvent, en tout cas dans le parcours analytique, la verbalisation, c'est souvent le premier pas, voire peut-être pour certains le dernier quand c'est leur sensibilité, bah pour dépasser le ressentiment.
Cynthia Fleury, je voudrais qu'on consacre les quelques minutes qui nous restent pour parler de votre chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne, parce que les auditeurs ont dû, ceux qui ne vous connaissent pas ou pas beaucoup, doivent être étonnés quand j'ai dit tout à l'heure, que vous dirigez la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne. Ils vont dire, qu'est-ce qu'une chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne?
Oui, en l'occurrence, donc, la chaire de philosophie à l'hôpital du GHU, parce que quel est son vrai nom? Du GHU.
Alors, qu'est-ce qu'un GHU?
Voilà, groupe hospitalier universitaire de Paris, psychiatrie et neurosciences. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu long comme nom, mais c'est son vrai nom. Qui est effectivement sur le site Sainte-Anne, mais qui est aussi la chaire de Péry-Vaucluse, de Maison-Blanche, enfin de tout le GHU, psychiatrie et neurosciences. Une chaire de philosophie, elle a 5 ans d'ailleurs, nous allons fêter ces 5 ans. C'est une chaire qui est dédiée tout simplement à l'implémentation, le terme est pas très joli, mais des humanités médicales, le soin est un humanisme, en l'occurrence, dans les enseignements, dans les parcours de diplomation, mais plus globalement dans les pratiques. Il y avait une volonté absolue que la chaire de philosophie devienne un service. C'est-à-dire qu'il y ait aussi toute une part expérimental, toute une part éventuellement de prototypage. Donc, on a à la fois tout le discursif, le théorique, etc. Donc, c'est des grands cours, ça, tout le monde peut comprendre des projets de recherche.
Donc, adressé au personnel soignant.
Adressé au personnel soignant, mais accessible à tous. Oui. Vous êtes citoyen, patient, malade, pas malade, ambulancier, directeur d'hôpital, tout ce que vous voulez, les cours sont accessibles, gratuits, etc. Vous voulez vous diplômer, c'est une autre histoire, puisqu'il y a des prérequis comme tout système de diplomation. Mais il y a véritablement le fait de dire que l'hôpital est un média. Un médium, mais un média au sens de, voilà, on partage et c'est un pilier de la cité. Et c'est un outil réflexif. Et c'est un outil réflexif aussi sur la toxicité institutionnelle que parfois est aussi l'hôpital. Donc, selon la psychothérapie institutionnelle, Uri Toscaliès, on a un grand programme qui s'appelle Soigner l'hôpital. Parce que, de fait, quand vous êtes une institution de soins, c'est mieux d'avoir des rapports sociaux à peu près... non toxique. Bon, donc on a, mais ça renvoie surtout à ce que nous venons de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que le soin est la base de l'état de droit. Et donc pour cela, c'est vrai que j'avais à cœur, avec tant d'autres, d'aller remettre la philosophie, une chaire de philosophie, non pas à l'université, mais symboliquement à l'hôpital.
Et
dans l'hôpital.
Le contexte sanitaire du moment rend votre Tout action d'autant plus importante.
Tout à fait. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui nous avons une équipe splendide et surtout nous travaillons vraiment avec tous ceux aussi qui ont créé l'éthique depuis une trentaine d'années, parce que l'éthique est là hein, depuis toujours. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, ils ont été les pionniers et nous sommes leurs héritiers. Et là, il y a sans doute une vraie rupture de paradigme sur ces humanités scientifiques.
Merci Cynthia Fleury pour cette action à l'hôpital et pour ce livre Siji, la mère, guérir du ressentiment, votre dernier essai publié chez Gallimard. Merci d'être venu nous en parler.
Merci.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Vous pouvez télécharger cette émission sur notre site www.rfi.fr ou sur votre moteur de recherche préféré pour l'écouter quand vous le souhaitez. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche donc pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.